RCF.
Madame, qu'est-ce que c'est que ça?
Des œufs mimosa, monsieur Septime.
Vous appelez ça des œufs mimosa, vous?
Oui, monsieur Septime.
J'ai déjà dit que pour simuler le feuillage des œufs mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil.
S'il est un pays où la gastronomie et la cuisine sont une véritable passion, c'est bien la France. C'est un art qui s'est élaboré au fil des siècles, qui a connu des tournants, des étapes, des querelles même, et qui a forgé une identité nationale qui fait de la France aujourd'hui le pays de la gastronomie. Bonjour Patrick Rambourg.
Bonjour.
Vous êtes historien des pratiques culinaires et alimentaires. Vous enseignez à l'université Paris 7. Est-ce qu'on connaît, Patrick Rambourg, des éléments très intéressants sur la cuisine au Moyen-Âge grâce aux écrits et aux traités culinaires qu'on a retrouvés donc?
Oui, on a de la chance d'avoir comme source les livres de cuisine, donc les traités culinaires ou les recueils de recettes, comme on peut les appeler. Et on a la chance d'avoir donc des traités culinaires de la fin du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc ça nous permet de faire de belles études sur l'évolution du goût, sur l'évolution des pratiques culinaires et alimentaires. Au tournant du XIIIe et XIVe siècle apparaissent des livres de cuisine. Ce sont des manuscrits encore à l'époque, donc pas vraiment des livres de cuisine. Ce ne sont pas les premiers. On a des traités culinaires à l'époque romaine, bien sûr. Et même, on pourrait aller plus loin, puisqu'on a retrouvé des recettes à l'époque mésopotamienne, donc 2500-2700 ans avant Jésus-Christ.
Alors, quelle est la particularité de ces manuscrits du Moyen-Âge?
Des manuscrits du Moyen-Âge. Alors déjà, le simple fait qu'ils apparaissent en français, alors ce n'est pas une spécificité de ce pays. Hein. On a des traités qui apparaissent en langue anglaise, des traités qui apparaissent en langue germanique, en langue espagnole, etc. Ça indique déjà, quand ils apparaissent dans une langue vernaculaire, ça signifie déjà un élément identitaire. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces traités, on nous dit qu'ils sont écrits par des professionnels de la cuisine, donc par des chefs. Alors l'un des plus connus est Taillevent. Guillaume Tirel, c'est-à-dire chef de Charles V et de Charles VI, au XIVe siècle, XVe siècle.
Le viandier, oui. Qui est, dites-vous dans votre livre, un véritable best-seller.
Oui, tout à fait. Le viandier, donc, qu'on attribue à Guillaume Tirel, à Taillevent, est un véritable best-seller. Alors déjà, on a plusieurs manuscrits, et le fait d'avoir plusieurs manuscrits de ce viandier nous montre une évolution de la pratique culinaire, une évolution de l'écriture de la cuisine. Donc c'est le premier livre de cuisine qui sera imprimé vers les années 1480, hein, et ensuite qui sera constamment réédité jusqu'au milieu du XVIIe siècle.
Donc on y trouve des recettes de cuisine?
On y trouve des recettes de cuisine, présenté alors d'emblée en jour gras et en jour maigre, et ça c'est quelque chose qui va durer pendant plusieurs siècles.
Calqué sur la pratique religieuse, évidemment.
Calqué sur la pratique religieuse, on propose des recettes que l'on peut faire les jours à poisson et des recettes que l'on peut faire les jours à viande. Donc calqué sur la pratique religieuse. Ensuite, on a des recettes qui sont ordonnées aussi selon le menu de l'époque, donc potage, entrée, entremets, rôt, etc. La particularité de ces recettes, c'est qu'elles n'ont généralement pas de temps de cuisson, pas de proportion. Et ça va durer longtemps. Pour une raison toute simple, c'est que à l'époque, on n'avait pas les gazinières sophistiquées que l'on a aujourd'hui et on cuisinait dans l'âtre de la cheminée. C'est une cuisine des élites. Ce n'est pas une cuisine du commun.
C'est-à-dire des seigneurs, des princes.
Des seigneurs, des princes, des rois, voire de la haute bourgeoisie, puisqu'on a un traité très connu et très célèbre qui s'appelle le Ménager de Paris, le Mesnager de Paris en vieux français, écrit par un haut bourgeois parisien. Et c'est pas seulement un traité de cuisine, c'est aussi un traité de domesticité. C'est un monsieur d'un certain âge qui s'est marié avec une femme beaucoup plus jeune, une jeune femme, qui devait apprendre à tenir une maison. Et on a dans ce traité 400 recettes. Et donc, on voit bien la différence entre le traité du viandier, par exemple, qui est un traité de cuisine aristocratique, et le traité du le ménager de Paris, qui est une cuisine bourgeoise. Et alors, dans le ménager de Paris, on a beaucoup d'informations et beaucoup de détails, parce qu'il s'adresse à sa jeune femme, qui ne sait pas cuisiner. Et donc, il lui donne beaucoup d'informations.
Des trucs et des astuces.
Des trucs et des astuces, qu'on ne trouve pas forcément dans les traités aristocratiques, qui s'adressent à des professionnels.
Suite de l'histoire.
Patrick Rambourg, vous disiez, on cuisine dans l'âtre, dans les grandes maisons hein, qui disposent d'une cheminée, d'un âtre. C'est là qu'on cuit tout.
C'est là qu'on cuit tout à cette époque. Il faut avoir une cuisine. Or, chez le commun des mortels, la cuisine, il n'y en a pas. Hein, c'est une pièce commune, on a parfois un petit brasero au sol pour réchauffer, et c'est pour ça que dans les grandes villes, notamment à Paris, il y avait des spécialistes du prêt-à-manger, c'est-à-dire des professionnels de bouche qui proposaient une nourriture prête à être consommée.
Vous dites que ce sont les fast-foods du Moyen-Âge,
en quelque sorte. Du Moyen-Âge, tout à fait. C'est-à-dire, on a déjà ce qu'on appelle les cuisiniers ouaillés, les pâtissiers, les rôtisseurs et les charcutiers et bien d'autres professionnels de bouche qui proposent une nourriture à un prix modeste à la majorité de la population.
Et on la consomme dans la rue,
On peut la consommer dans la rue, on peut la consommer à la maison, chez soi. L'auteur du Ménage de Paris nous dit très clairement, quand on n'a pas le temps de faire la cuisine le soir, on peut aller acheter un bouillon chez le tavernier, acheter des œufs, rentrer chez soi, chauffer le bouillon et mettre son œuf dedans et cuire son œuf. À côté, on a bien sûr ceux qui ont les moyens d'avoir une cuisine. Donc avoir une cuisine, c'est un espace spécifique. C'est aussi souvent avoir un cuisinier ou des cuisinières. Du personnel. Et cuire dans l'âtre de la cheminée, par exemple, c'est cuire dans le pot. Les archéologues retrouvent beaucoup de pots en terre, bien sûr, et avec des petits pieds qu'on appelle tripodes, et que l'on met devant le foyer et que l'on tourne régulièrement pour cuire ce qu'on appelle le potage. Alors le potage à l'époque, ça n'a rien à voir avec notre potage aujourd'hui. Un potage à l'époque, c'est comme un ragoût, c'est-à-dire c'est souvent de la viande qui cuit dans une sauce ou dans un bouillon devant le foyer.
Et qui est cuit dans un pot. D'où le nom.
Pot, potage, tout à fait. Et alors, lors des grands repas, des grands banquets, on a bien sûr la pièce maîtresse du repas qui est le rôti. Et là, bien sûr, quand les archéologues retrouvent des broches ou des grilles, c'est un indice social. Ça veut dire qu'on est dans le contexte d'une grande maison. Cuire un rôti, là, ça demande de l'attention. Et on a l'iconographie de l'époque qui nous montre bien. Bien souvent, on voit une personne qui est en train de tourner une grande broche avec des volailles et une personne qui se protège le visage avec une petite plaque de bois parce que pour nous indiquer que c'est très chaud. Cuire un rôti, c'est plus complexe qu'on ne le pense, parce que le foyer est fort et on doit arriver à contrôler la chaleur pour que la pièce de viande puisse cuire régulièrement sans être brûlée.
Alors quel genre de pièce de viande ? Du bœuf essentiellement ?
Non, le bœuf n'apparaît pas vraiment dans les grandes maisons. Le bœuf à cette époque n'est pas considéré comme une viande des grandes tables. C'est essentiellement des volailles, des volatiles. Alors là, on a une symbolique très très forte. C'est-à-dire que d'une façon générale, tous les aliments qui sont le plus éloignés possible de la terre, le plus près possible du ciel, sont une nourriture
plus noble.
Plus noble, oui. Tout simplement parce qu'on considère que c'était déjà une nourriture plus légère. Les volailles, les volatiles, on voit très bien ce que ça veut dire. Mais surtout, c'est plus près du paradis, du monde de Dieu.
Pourtant, on mangeait beaucoup de porc, non, à cette époque-là ? Ou alors c'est une idée toute faite ?
Non, alors, la viande de porc, on en consomme, c'est vrai, mais dans une autre catégorie sociale. Quand on parle de cuisine et d'alimentation à cette époque, et ça va durer très longtemps, on aborde obligatoirement la distinction sociale. Et la nourriture n'est pas la même sur la table aristocratique que sur la table bourgeoise, que sur la table du paysan.
Il en est de même pour les épices, qui sont une caractéristique de la cuisine du Moyen-Âge.
Exactement. Longtemps, on a eu une idée reçue sur les épices qui venait des historiens du XIXe siècle. Les historiens du XIXe siècle ont regardé ces traités culinaires de l'époque, en ont édité pas mal d'ailleurs, notamment Le Viandier a été édité au XIXe siècle. Ils ont lu les recettes et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'épices. Et ils se sont dit, on utilise les épices à cette époque, c'est pour cacher le goût des viandes avariées. Or, ça ne fonctionne pas historiquement, parce que les épices sont très chères. Donc, les seuls qui pouvaient s'acheter des épices à cette époque, ce sont les plus riches. Or, les aristocrates ne mangent pas de la viande avariée.
Vous dites qu'elle est consommée tout de suite après que l'animal a été tué.
Exactement. Elle est consommée très fraîche, alors que nous, aujourd'hui, par exemple, on consomme un animal dont la viande a reposé une dizaine de jours, voire 15 jours. On appelle ça mortifié. Alors donc, ils consomment une viande très très fraîche et donc elle n'est pas si tendre qu'on ne pourrait le penser. Elle est plutôt dure. Donc souvent, on la salera aussi avant de la consommer.
Mais en tout cas, les épices ne sont pas là pour masquer le goût de la viande avariée.
Non, les épices sont une distinction sociale dans un premier temps. Deuxièmement, les épices avaient aussi une connotation diététique qui rentrait dans le cadre de la théorie des humeurs qui venait du monde antique. On pensait que la cuisine était une médecine, une diététique. Et donc, les épices considérées comme chaude et sèche dans la théorie humorale, la viande et le poisson considérés comme froid et humide, on pensait que si on faisait une cuisine avec des épices chaudes et sèches et une denrée humide et froide, on trouvait un équilibre. Donc on a des approches concernant les épices, on a plusieurs discours, mais tout ça s'intègre parfaitement dans la manière de penser du monde médiéval en fait. Et on voit bien que la cuisine, c'est plus qu'une façon de se nourrir. La cuisine nous donne des indications sociales, nous donne des indications symboliques, nous donne des indications religieuses aussi.
Alors, restons dans le milieu, disons, aristocratique. Mmh. Est-ce qu'on se met à table et est-ce que la table ressemble à celle qu'on connaît aujourd'hui ?
La table médiévale est totalement différente de la nôtre. Alors déjà, la notion de table, quand on dit mettre la table à cette époque, notamment dans les grandes maisons, c'est prendre des tréteaux, c'est prendre une planche et former la table.
Dresser la table.
Dresser la table, c'est exactement cela. Dresser la table, c'est faire la table. Dans un premier temps. Ensuite,
il n'y a pas un endroit destiné à ça où une table est tout le temps prête pour qu'on puisse manger.
Non, la notion de salle à manger n'existe pas vraiment à l'époque. Dans les grandes demeures, dans les châteaux, etc., on mangeait où on le souhaitait. Et par exemple, à la cour, il y avait le repas privé qui se prenait dans ce qu'on appelait la chambre du roi ou de la reine, et puis il y avait les repas publics. Et on voit ça dans toutes les maisons princières. Alors, paradoxalement, sur la table, il n'y a pas beaucoup de vaisselle, il n'y a pas de verre. Le verre est absent. Il n'y a pas d'assiette. À l'époque, l'assiette n'est pas là. Il y a ce qu'on appelle des tranchoirs ou des tailloirs. Les tranchoirs ou tailloirs, selon le contexte élitiste, ça peut être une petite planchette de bois, ça peut être une petite plaque ronde ou rectangulaire en argent ou en or, ou ça peut être une tranche de pain.
Alors, qu'est-ce qu'on faisait sur ce pain ou sur ces planches ?
Ce pain ou ces petites plaques recevaient la nourriture. Ça faisait office d'assiette. La nourriture préparée arrivait soit dans des écuelles, soit dans des plats, les pièces rôties dans des plats et les plats en sauce dans des écuelles, et on prenait cette nourriture généralement avec les mains ou avec la pointe du couteau, et on mettait ça dans son écuelle et on mangeait avec ses doigts.
Pas de fourchette pour le moment.
Pas de fourchette pour le moment, même si elle existe déjà.
On se retrouve demain, Patrick Rambourg, pour poursuivre l'évocation donc de l'histoire de la cuisine et de la gastronomie en France. Merci.
Merci.